La parole du jour avec Claude Frisch, diacre.
Chers auditeurs, bonjour. Pour cette dernière séquence sur les sacrements de l'initiation chrétienne, je terminerai d'abord sur le baptême actuel et puis j'essaierai de vous dire quelques mots sur la confirmation et l'Eucharistie. Alors pour terminer, on avait vu la liturgie de la parole, la renonciation au mal et la profession de foi. Il y a également le rite d'eau et la formule baptismale, en sachant que la signification de l'eau est toujours ambivalente. Elle dit à la fois la mort et la vie. Et on sait que les pères de l'Église ont aimé relire ces récits de la création, du déluge, de l'exode, où l'eau est présente, comme autant de passages de la mort à la vie, par la mort vers la vie, annonçant et anticipant le passage par excellence réalisé en Christ mort et ressuscité. Enfin, soulignons la formule baptismale qui est trinitaire, avec la triple immersion ou le triple versement au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Enfin, avec les rites post-baptismaux que sont l'onction avec le Saint-Crème, qui est l'anticipation de la confirmation, le vêtement blanc qui, dans les premiers siècles, revêtait celles et ceux qui avaient été baptisés entièrement nus, dit l'accès à une vie nouvelle dans le Christ, et enfin la remise du cierge, qui est aussi appelée illumination. Alors le baptême est bien un acte de Dieu Père, Fils et Esprit, accompli par la médiation de l'Église. Il y a donc une dimension ecclésiale, tout baptême est accompli par l'Église, en la personne d'un de ses ministres, dans la foi de l'Église, en vue de constituer l'Église, en même temps qu'à une communauté locale et une Église particulière, qui est le diocèse. Le baptême donc agrège à l'Église universelle. C'est un élément important de communion, y compris entre les chrétiens divisés, au même titre que la proclamation d'un même évangile. La deuxième dimension, donc la dimension trinitaire, où le baptisé devient lui-même Christ. Il reçoit l'onction du Fils, il est consacré, on parlera alors de sacerdoce baptismal. On est constitué baptisé, confirmé, une fois pour toutes, dans toute sa personne. La relation instaurée avec Dieu par le sacrement est irréversible et marque définitivement le croyant qui, consacré, appartient définitivement au Christ. C'est donc bien l'Esprit qui fait enfant de Dieu. La relation au Père est peut-être dans le Fils et par l'Esprit le terme de l'action baptismale. Voyons à présent la confirmation, mais rapidement, puisque au début de la chrétienté, la confirmation, finalement, était suivait immédiatement le baptême, qui était lié directement à l'Eucharistie. Donc, il faut bien l'avoir en tête, parce que si aujourd'hui on a trois étapes différentes que sont le baptême, la confirmation et l'Eucharistie, les trois sont intimement liés, mais tout tourne autour du mystère pascal, bien sûr, et de l'Eucharistie, sachant que le baptême nous fait entrer dans le peuple de Dieu et que la confirmation, dans une lucidité plus avancée, puisque la confirmation intervient dans une maturité plus élevée, on est quand même lié au baptême. Alors, le rituel et sa théologie, on a toujours affaire à un rite célébré par l'évêque, relié au don de l'esprit. À l'origine, comme je le disais, la confirmation apparaît comme un des éléments de l'initiation chrétienne. Le don de l'esprit est conféré par l'imposition des mains. Et dans les actes, l'association du bain d'eau et de l'imposition des mains peuvent être associées au don de l'esprit. L'Écriture a recours pour dire le don de l'esprit, communiqué par l'imposition des mains, à deux images bibliques. Le don de l'esprit est une onction et un sceau. Vous avez été marqués en Éphésiens du sceau de l'esprit promis. N'attristez pas le Saint-Esprit dont Dieu vous a marqué comme d'un sceau pour le jour de la délivrance. On constate donc un lien onction-sceau. Le rite, influencé par les images pauliniennes, reprennent l'onction et l'assignation. Par le don de l'Esprit, le chrétien est oint à l'image du Christ. Et le don de l'Esprit est comme un sceau, une marque imprimée au chrétien, ce que signifie l'assignation ou le signe de croix. Avec le baptême, la confirmation et l'ordination, on a affaire à trois rites qu'on ne répète pas. Trois rites qui manifestent et réalisent une consécration où Dieu s'engage irrévocablement et qui marque la personne. Actuellement, c'est Paul VI qui a promulgué le rituel de la confirmation, qui précise le sacrement de confirmation est conféré par l'onction du Saint-Crème sur le front, faite en imposant la main et par des paroles. Le signe sacramentel devient l'onction, mais on n'a pas voulu le dire clairement à cause de la tradition de l'Église latine qui a privilégié l'imposition des mains. Enfin, le ministre, c'est l'évêque qui reste ministre ordinaire de la confirmation. Mais Vatican II le désigne comme ministre originaire, ce qui a pour conséquence que l'évêque peut déléguer la célébration du sacrement. La confirmation est le sacrement, nous dit Vatican II, qui vient parfaire ou achever le baptême, au sens où il vient en sceller officiellement l'authenticité ecclésiale de par l'intervention de l'évêque et par là même intégrer le baptisé dans la pleine communion de l'Église. Voilà ce qu'on pouvait dire sur la confirmation. Alors, ces deux sacrements de l'initiation chrétienne prennent leur source évidemment dans la vie du Christ, mais surtout dans l'Eucharistie qui manifeste chaque dimanche le mystère pascal. Alors, ce mystère pascal, l'Eucharistie, a plusieurs principes. D'abord ecclésial, ce sont des communautés qui relisent en fonction de ce qu'elles sont. Christologique, à la lumière de la résurrection du Christ. Scriptuaire, à partir des Écritures, juives notamment, et sous la motion de l'Esprit-Saint. Donc ce sont des récits marqués par la liturgie qui reprennent le repas pascal, la scène et la Pâque. La scène qui est le repas pascal juif, ne l'oublions pas. À l'origine, on sait bien que la Pâque, c'est l'immolation de l'agneau en mémoire de Dieu, qui, en Égypte, est passé au-delà des maisons des Israélites, marqué, protégé par le sang de l'agneau, alors immolé pour frapper les Égyptiens. La Pâque commémore le passage salvateur de Dieu. On voit bien le lien avec le sacrifice de l'agneau. La perspective est celle du salut, de la libération d'Égypte, dont c'est le premier acte, d'où le sens de la Pâque pour les Juifs du temps du Christ. On fait directement l'association à la Pâque chrétienne, qui est l'immolation du Christ, le véritable agneau pascal, et qui prendra le sens qui est le sien aujourd'hui, celui de passage du Christ de la mort à la vie, Pâque désignant la résurrection. À travers sa passion, le Christ passe à sa résurrection vers le Père. Mais c'est parce que la mort et la résurrection du Christ sont inséparables que l'on a fini par s'habituer à ce que le terme de Pâques désignant la mort en vienne aussi à désigner la résurrection du Christ. Voilà, je continuerai une prochaine fois à vous parler de cette passionnante histoire et de cette passionnante acte de foi qu'est le ressourcement à l'Eucharistie, qui fait la vie du chrétien et le centre de notre foi. À bientôt, au revoir.